et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça.
Je crois qu'il existe une droite et je crois qu'il existe une gauche, même dans la culture, même dans la littérature. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains et les intellectuels et les chercheurs, disons, en gros de gauche, qu'ils devaient assumer la notion de plaisir dans la théorie du texte.
Montaigne was a thug. Montaigne was a thug, rap, littérature et révolution sur Radio Canu, comme tous les lundis de 13 à 14. Alors aujourd'hui, Montaigne was a thug innove totalement. Parce que comme je l'ai dit, Montaigne was a thug, à la base, c'est du rap. Mais là aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la littérature et à la littérature liée à la musique électronique, à la musique techno aussi, entre autres, avec un roman que l'auteur vient présenter. L'auteur se nomme donc Brieux Lemeur. Il vient nous présenter son roman Deux Mondes. Bonjour Monsieur Brieux.
Bonjour, enchanté, très content d'être ici.
Ben ouais, on est content aussi de vous avoir. Alors Monsieur Lemeur sera aujourd'hui accompagné du chroniqueur, du pertinent Albert Tabu, qui sera là aussi pour nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Monsieur Tabu.
Bonjour Monsieur Tag.
Monsieur Brieux Lemeur, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes français, vous avez une quarantaine d'années.
C'est ça.
Mon Dieu. Vous êtes le doyen de cette émission, l'homme le plus vieux à être jamais rentré dans cette émission. Ouais. Et votre première vocation est la littérature, mais vous faites vos débuts dans la musique électronique, la techno. Et d'ailleurs, en 94, vous participez à l'essor des scènes rave.
Tout à fait.
Et par la suite, vous voyagez, vous habitez à Paris, Nantes, Tokyo, Berlin. Donc ça fait pas mal de choses. Vous avez vu beaucoup de choses, faut croire.
Ouais.
Et en 2003, vous vous installez en Allemagne, si c'est une question.
Non, je me suis installé en Allemagne, après Tokyo, j'étais à Tokyo toute l'année 2007 et j'avais pas envie de revenir en France, c'était un peu too much, et je voulais continuer à composer de la musique et pouvoir la jouer, surtout, et la seule scène encore active à l'époque dans ce créneau-là, c'était Berlin.
À cette époque, vous aviez déjà créé votre label?
J'avais déjà un label qui s'appelle F4 Disc, qui existe depuis 2003. J'ai sorti un premier album en 2003.
Et vous écriviez,
J'ai toujours écrit, en fait, en parallèle de la musique, mais je me sentais pas prêt pour une édition. C'était très fragmentaire, assez expérimental. Et je trouvais que ça pouvait pas prétendre à rassembler un public. Enfin, je voulais pouvoir parler de ça de façon classique, en fait.
Monte le micro un peu.
Ouais.
Et d'accord, et ok. Et donc, c'est en 2014, en fait, que vous publiez vos premiers textes, si j'ai bien compris. Donc, Oubliez quelqu'un en 30 jours.
Ouais.
Ainsi que le roman auquel on va s'intéresser aujourd'hui, Deux Mondes, Panic in Berghain. Donc voilà, c'est un roman que j'ai découvert, qui est très surprenant, parce que là, vous l'avez dit, vous avez trouvé que votre écriture, avant que vous écriviez vraiment, que vous publiez, était très expérimentale. Ce roman, il est aussi très expérimental, vous essayez beaucoup de choses, et entre autres, de lier la musique électronique et l'écriture. Donc ça, on va peut-être commencer par ça.
Ouais. Je peux le commenter. Alors, il a fallu trouver une langue, en fait, pour... C'est pas plus la musique électronique que l'expérience de la musique électronique sous influence dans des clubs ou dans des rêves. Donc,
sous influence, ça va.
Sous influence, sous drogue, parlons concrètement.
Ouais.
Donc, on a toujours l'impression qu'on vit des choses extraordinaires à ce moment-là. C'est peut-être pas forcément le cas, mais en tout cas, on a l'impression. Donc moi, je me suis dit, est-ce que je peux rendre cette impression? Est-ce que je peux rendre l'impression de la durée des soirées et de ces moments-là? J'ai pas réussi au départ parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas faire un roman que là-dessus. C'était l'idée de départ. Est-ce que je peux faire un roman sur une seule nuit, par exemple? C'était un peu.
Vous avez essayé?
J'ai essayé et ça fonctionnait pas, donc je suis arrêté à 10 pages. Et 10 pages sur en disant je suis en train de danser.
Ouais.
C'est fantastique, je suis le centre du monde.
Ça revient pas mal dans le bouquin, je suis le centre du monde. C'est l'impression qu'on a un peu dans ces soirées.
Je trouve qu'il y a souvent l'impression d'être vivre quelque chose qui n'existe pas ailleurs et d'être donc dans un rapport unique, enfin dans une arcade. Un peu décalé la société avec les bonnes personnes au bon moment et surtout au bon endroit. Ça peut arriver un peu n'importe où et à n'importe qui, mais c'est une espèce d'impression de plénitude comme ça qui génère des pensées égocentriques. Mais je trouve que c'est intéressant de parler de l'ego comme ça. Il y a des sociologues qui avaient parlé de la disparition de l'ego ou de l'éclatement de l'ego justement dans ces moments-là. Ils avaient étudié les scènes techno sous le trait du tribalisme, etc. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve justement l'ego est extrêmement présent et que c'est pas un mal. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, les expériences techno, pour moi, c'était essayer de trouver une langue un peu différente de la langue classique qui permettrait de rendre des expériences distordantes, psychédéliques, mais aussi de pas oublier les aspects de la vie courante, le quotidien en fait. Pour pouvoir parler de choses extrêmes, il faut avoir un contrepoint et parler de choses extrêmement plates et la journée, le travail, enfin ça c'est d'autres thèmes du roman.
Ouais, mais en effet, ouais, on y viendra bien sûr. D'ailleurs, ça se voit dans votre écriture la volonté, je crois, de rendre ce monde un peu fragmenté avec une écriture très brève. C'est tout en micro-parties, c'est-à-dire il y a des chapitres extrêmement courts avec à l'intérieur des sous-parties, ouais, avec des phrases très courtes. Donc c'est ce que vous avez dit, très fragmenté. Donc il y a une musicalité de l'écriture qui, je crois, parce que moi voilà, déjà c'est peut-être notre défaut à tous les deux là aujourd'hui, on s'y connaît rien à la techno.
D'accord.
On n'a jamais été en rêve, on n'a jamais été en teuf. Justement, je suis un peu allergique musicalement à ce genre de musique. Et donc,
Monsieur Bertrand Amphibien va débarquer et je crois qu'il est encore. Il a des restes de ce week-end, non, c'est ça?
Ouais, peut-être qu'on aura un spécialiste qui va débarquer au milieu de l'émission. C'est la surprise. Et donc on n'a pas connaissance de ça, mais c'est donc du coup c'est super intéressant que vous venez nous en parler aujourd'hui. Et
ça tombe bien, bah oui, parce que moi justement je voulais m'adresser à des gens qui ne connaissent pas la techno. Je voulais que ma petite cousine ou ma maman puisse lire ce roman. Je voulais pas m'adresser à des spécialistes, des aficionados du cru. En plus, je sais que les gens ne lisent pas forcément, donc je voulais ouvrir une fenêtre sur un monde que les gens n'aborderaient pas d'habitude. Et c'est normalement le principe de la littérature ou du cinéma. Mais je remets ça un peu en question parce que je m'aperçois que les gens aiment leur sujet préféré. Et donc, même s'ils aiment lire, ils aiment la littérature ou le cinéma en général, ils vont pas voir certains films ni lire certains livres parce que le sujet ne leur correspond pas. Et je trouve ça bizarre, en fait.
Et pas Montaigne Was the Tug, hein, t'es bien tombé.
Voilà.
T'es bien tombé. Et donc, je voulais revenir sur la musicalité de ton écriture parce que, donc, on a un texte qui est extrêmement musical et de l'autre côté, t'as eu cette volonté, je crois, de poser ton texte sur des instrumentaux, de mettre donc en musique ce texte. Alors là, pourquoi en fait? Parce que moi, enfin, la musique techno, moi, si j'ai bien compris, mais comme je t'ai dit que j'y connaissais rien, je suis pas forcément le mieux placé. La musique techno, pour moi, c'est une musique sans paroles. Hein, c'est assez minimaliste, et donc il y a pas de texte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de poser son texte en fait sur
C'est pour tirer. Moi, je suis musicien, donc je suis compositeur, producteur de musique, pas que de techno d'ailleurs. Hein, j'ai d'autres projets pop. Je viens aussi du rock, donc moi, j'ai une vision très ouverte là-dessus. Je suis tombé dans la techno parce que moi c'est ce qui m'explosait la tête au début des années 90, le rock ou enfin tout ce que j'écoutais en rock, en noise ou Sonic Youth et des choses comme ça. À un moment donné, je sentais que ça me permettait pas d'aller au-delà de ce dont j'avais besoin et de rencontrer ça. Pour moi, c'était un prolongement, mais c'était pas forcément qu'un mouvement musical en fait. Il y avait une action, une aventure qui était au-delà de l'art, au-delà de la musique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc déjà, ça permet d'en parler de façon littéraire ou cinématographique. Et ensuite, de produire des instrumentaux, de produire des chansons, de continuer de travailler avec des groupes de rock, etc. D'écrire de la poésie et de la littérature, le lien se fait assez naturellement. À un moment donné, on se met à chanter sur des instruments électronique, d'instrumentaux électroniques plutôt que sur des guitares ou des pianos. Et puis, tout naturellement, on revient au spoken word, qui est un format qui est connu depuis très longtemps. C'est-à-dire que parler, dire quelque chose sur un instrumental, qu'il soit techno, rock ou ambiante, c'est un format qui fonctionne. Donc, j'aurais eu tort de pas l'exploiter avec ce que je savais faire. Enfin, avec les outils que j'ai sous la main, en fait. C'est une démarche en fait un peu punk, c'est-à-dire que on prend ce qui est le plus facile et le plus simple pour composer, et puis on avance comme ça, quoi.
D'accord, ok, donc ça fonctionne. Donc du coup, on va voir un peu ce que ça donne.
Exactement.
Si là, c'est, je pense que le moment est bienvenu. Donc, j'ai balancé un son et donc Monsieur Brieux-Lemeur va nous lire la page 25 de son roman, du roman de ce qu'on n'a pas encore abordé vraiment pleinement, mais on va y venir après. Il y a pas de souci. Et donc pour voir un peu ce que ça donne finalement de lire ça. Donc alors, difficulté de bien mettre le son. Vous me dites s'il y a assez de retour ou...
Ça marche.
Vendredi, fin d'après-midi, trois types, yeux fixes, pas un bonjour, le visage ravagé par quelque chose que je ne connais pas, viennent me chercher en bas de chez moi en avance de 20 minutes sur l'horaire. Depuis combien de temps ces mecs n'ont pas dormi, je ne sais pas. Ils m'attendent en double fil. Un mégot vole au vent et s'écrase sur le monospace tout à côté. Je crois que le ton est donné. Je m'installe à l'arrière et la voiture démarre. Et le simple fait de rouler, de sortir de la ville, et je raccorde une ambiance spéciale à un temps particulier. Et tout change. Je suis libre. Je contemple les façades des immeubles avec des yeux neufs. Et je laisse la ville buter, rivetée à ses ponts, à ses métros, la tête à l'envers depuis l'automne. Je file sur une bande de béton, c'est une vallée aux parois abruptes, aux couleurs vertes et roses et mauves, bardées de fenêtres, et parfois les gens sortent et me regardent. Ils me regardent, ils tendent leurs bras et pointent leurs doigts sur le véhicule. À l'intérieur, les gars bidouillent une radio secrète et c'est terrible. C'est une succession de tubes à ralenti et accélérés à la fois. Et leurs sourires sont de plus en plus inquiétants. Ils parlent fort, rien d'humour douteux, plein de bile et d'énervement. Pour se donner du courage, pour ne pas entendre le bruit dehors. Et je crois voir leurs dents cisailler les chairs. Et des grands coups de mâchoire, énervés, yeux exorbités. Ils y vont sans relâche, ils y vont jusqu'au sang. Un mélange dans une bouteille tourne. Au moment de boire dedans, je change d'avis, je leur rends. On accélère dans le soir naissant. La lumière rasante nous éblouit. Ah, je sais pas comment il fait pour conduire le type, il accélère encore. Et bientôt c'est la bretelle d'autoroute. Nous fonçons dans les étages. On se retrouve baigné du dernier soleil. La clameur monte. Tandis que d'autres voitures nous rejoignent. Nous sortons de la ville telle une escouade vers une destination inconnue. Les portables sonnent sans interruption. Au bout de 40 minutes, nous arrivons à l'entrée d'un complexe industriel tout au bord du fleuve. La voiture pénètre dans une zone semi-sauvage, puis traverse la cour d'un entrepôt gigantesque. Tout est abandonné ici, rongé par les arbustes qui lacèrent les vitres. On s'arrête devant une gigantesque porte coulissante. On sort du véhicule, on fume. Je pénètre à l'intérieur. Je distingue quelques torches au loin. Ils ont branché la sono de l'autre côté du site. Et comme ils tirent des palettes remplies de matériel, des crissements de métal retentissent dans tout l'espace. La réverbération est immense. Un filet de son retentit, timide. Des phases de test du système, des spectres aigus qui lacèrent l'air comme un oiseau dément. Je fais quelques pas. Mais les tôles du hangar ne sont pas encore à trembler, non, non. C'est encore le silence, quelques frottements et cette odeur d'huile, de poussière. Et mon cœur, si doux, se laisse aller, submergé par une mystique ancienne qu'avec peu de gens je peux partager.
Ireland is good. Very poor. No job.
Very poor.
Je veux les croiser tous, je remonte au flot de rêveurs à contresens, les corps, les visages, j'entends le gronron du gros chat qui siège en eux. L'obscurité se propage, l'air se fait plus humide. Les téléphones sont des points bleus reliés aux étoiles, mais je n'en suis pas sûr. Partout, les mystères se déballent. Cachés sous les pierres, derrière les écorces, les poitrines se débraillent, chauffées par l'alcool, par l'immensité du ciel, étoiles, reflets des traçantes sur les capots.
Yeah. Ben merci monsieur Brieux-Lemaire pour cette lecture. Donc là je pense qu'on a bien senti un peu l'ambiance du roman avec ça, hein. Enfin moi c'est un peu ça que j'ai ressenti à la lecture, un truc très dark qui va assez vite, en fait qui est fait par un peu comme la technique, une accélération et après du silence.
Ouais.
On a des fois où vous lisez très vite et puis hop, blanc.
Ouais.
Ça c'est
inspiré, ouais. Je commence à bien la sentir parce que je l'ai fait plusieurs fois cette lecture déjà. Je sais qu'il faut laisser des respirations sinon ça va trop vite en fait. On n'arrive pas à intégrer les infos. Je voudrais ajouter que en fait, donc c'est un instrument techno très très minimaliste, ça a dû me prendre 5 minutes à le composer. Par contre, tout ce qui est sound design et bruit derrière, c'est des choses que j'ai, par contre, qui m'ont pris plus de temps parce que c'est des enregistrements pirates dans le club dont je parle, que j'ai enregistré dans les chiottes avec des gens un peu arrachés en fait. Donc on entend les voix traînantes et ça peut pas être plus authentique en fait.
Dans le club.
Ouais.
Le club dont il est question dans le roman.
Exactement.
Le Berghain, c'est ça?
Ouais.
Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, c'est le club référence techno dans le monde.
C'est un des clubs référents. D'un point de vue musical et de programmation, c'est très pointu. Pas toujours, mais très pointu. Techniquement, c'est parfait. Et après, il y a toute la dimension. Pardon. La dimension architecturale et l'ambiance qu'on éprouve, enfin les impressions très particulières qu'on éprouve en rentrant dans cet endroit qui est très beau en fait. Donc ça ajoute à la fascination, au mystère. Et
c'est un ancien bâtiment de Berlin-Est, c'est ça?
C'est un ancien bâtiment
de Berlin. Architecture de
l'URSS. Ouais, ça, c'est le néoclassique russe. Donc c'est très martial, énorme, avec des grandes fenêtres. On dirait une espèce de tank en fait, mais c'est plus une cathédrale aussi. On peut le voir de plusieurs façons. C'est un bâtiment gris qui est planté au milieu d'une zone commerciale en plein centre de Berlin. Mais on sent qu'il tient les autres bâtiments à distance. C'est très particulier. Et c'était une ancienne centrale électrique qui a pas duré très longtemps. Mais le fait même de l'histoire de ce lieu, enfin ce côté électrique, m'a permis de construire la trame narrative et la fiction à partir de ça en fait. L'électricité, puis ensuite l'histoire de la ville et la nature, parce qu'on parle, je parle pas de techno en fait, l'aspect techno est c'est 10% du texte.
Oui,
en fait.
C'est vrai qu'on parle que de ça depuis le début, mais c'est parce que c'était le point sur lequel j'étais faible et sur lequel je voulais me débarrasser, tu vois, pour après passer dans le vif du sujet. Donc on va y rentrer, donc l'intrigue du roman, vous pouvez nous en parler un peu.
Bah, l'intrigue du roman, brièvement revenir là-dessus. Moi, j'étais obligé de promouvoir le texte par le biais de la techno parce que j'avais l'avantage d'être producteur, donc je savais que je pouvais. C'est très difficile de sortir un roman, d'être un premier écrivain et de débarquer comme ça. Donc, c'était un peu la carte que j'avais à jouer. Donc, ça me dérange pas d'avoir promu le texte là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les 90% du reste qui ont été un peu occultés et escamotés même consciemment. De ma part, et je suis content qu'on puisse y revenir aujourd'hui. Donc l'intrigue, c'est un type qui se cherche dans Berlin, qui a un taf un peu con comme beaucoup dans la ville, une ville où il n'y a pas de boulot. Donc si on a envie de continuer d'être musicien et artiste, en général on choisit des boulots rapides, temporaires, donc pas forcément des bons boulots.
Non mais ça, excusez-moi, je vous coupe là, parce que alors là du coup, en fait le mec est DJ la nuit assez souvent, enfin il essaye de, voilà, il est musicien, il mixe souvent la nuit et ouvrier le jour.
Ouais.
Donc déjà moi je me suis dit, quand est-ce qu'il dort? Ouais.
Non mais c'est pas toutes les nuits, c'est-à-dire que quand on est musicien on joue le vendredi ou le samedi soir, on peut pas sortir. Enfin à Berlin, on peut sortir tous les soirs à Berlin vu qu'il y a assez de clubs et d'événements pour enchaîner toutes les nuits. Enfin faire un petit peu attention à sa santé. Mais non, il travaille, il a un boulot alimentaire comme tout le monde, c'est la vie de tout le monde, c'est ça, voilà, c'est la vie de tout le monde, assez plate, dont il faut parler. Le thème de l'ouvrier aujourd'hui, il a un peu disparu, mais les nouveaux ouvriers, c'est quoi? C'est les secrétaires, c'est les gens qui posent dans les McDo, c'est les gens qui font du montage d'expo, qui sont techniciens son, qui font des boulots de manuel, de manutention. Enfin, c'est ça les nouveaux ouvriers. Mais on est vraiment dans le sujet. C'est-à-dire que ça m'intéressait d'avoir un rapport, un effet miroir entre quelque chose de très brillant et avant-gardiste et
dans un monde à part de la nuit, dans un contexte musical international, et puis le pendant du jour où c'est là le exagéré dans le côté un peu célinien du crado hyper populaire.
Avec ça m'a fait penser aussi, ouais. Ses relations avec ses collègues de travail.
Voilà.
Et donc en fait, c'est ce que vous dites, il y a deux mondes. Enfin, c'est le titre du bouquin d'ailleurs. Est-ce que les deux mondes, ce serait d'un côté le monde de la nuit, le monde techno, et de l'autre le monde ouvrier, en partie, parce que c'est peut-être bien d'autres choses, mais
C'est ça. Il y en a plusieurs. C'est d'un côté le loisir et d'autre côté le travail, la réalité en fait. Ça peut être aussi le monde du dessus et le monde de l'en dessous en fait. Ça peut être un type qui est français en Allemagne et donc sa culture française et puis la culture allemande.
Le jour et la nuit aussi.
Le jour et la nuit. Et puis c'est des...
Ses relations avec sa femme, enfin avec sa femme officielle, sa femme avec qui il a un enfant.
Ouais, non, d'ailleurs il a pas un enfant, justement, c'est une... Il est arrivé dans leur vie comme ça, c'est...
Ah, c'est, je crois que c'était sa fille.
Non. C'est des... En fait, c'est quelqu'un qui est tiraillé entre plusieurs des choix de vie en fait. Dans quoi il peut vraiment s'épanouir et qu'est-ce qu'il cherche en lui en exil, parce que c'est quelqu'un qui est en exil. Donc les mondes se tamponnent, se diffractent. Il cherche des solutions, mais il est toujours souvent en opposition entre des choix cruciaux, esthétiques, moraux, et comment se débrouiller pour avancer. Donc,
et surtout pour parler aux gens des deux mondes. Moi, j'ai l'impression que ce personnage, il a un gros problème de communication avec tout le monde, avec aussi bien donc Michel, c'est son ami, que avec celle qui avec qui il couche régulièrement, avec qui fait la techno, Irina. Donc,
ouais.
Il a du mal. J'ai des passages là-dessus. Ouais, page 87. C'est que j'ai trouvé ça. Page 87. Ça, c'est super intéressant si c'est le mode de communication par la poésie, mais du coup, comme on se lance sur la communication, on va y venir. Les relations avec sa femme.
C'est vrai que les relations sont un peu tendues. C'est quelqu'un aussi qui fait pas forcément de cadeaux, c'est-à-dire qu'il a, il sent qu'il doit aller vite, donc il se rend compte que les gens attendent beaucoup de lui, donc il est pas forcément si disponible que ça. Lui, il cherche quelque chose qui est très personnel, comme les gens à Berlin en fait. Les gens qui s'installent à Berlin aujourd'hui, je parle pour les Français, mais les autres Européens aussi. Souvent, ils ont un trop plein de conformisme dans leur pays d'origine et ils ont besoin d'avoir ce rapport avec la ville qui est beaucoup plus hédoniste et avec une vie qui est très douce, donc qui permet de se reconstruire. Et donc, dans ce contexte de reconstruction et de découverte, il y a la découverte de soi et parfois ça laisse des gens de côté, en tout cas ceux d'avant. Je trouve que c'est quelqu'un qui en essor, donc il est obligé de couper dans le vif, quoi. Il y a des gens qui disparaissent ou il est pas forcément si disponible pour des... C'est aussi que le contexte rêve est aussi un peu désocialisant, parce que les expériences sont extrêmes, donc forcément ça c'est pendant dans la vie sociale, et c'est quelque chose dont je voulais parler parce que il y a énormément de gens qui vivent ça. Il n'y a pas de littérature ni de cinéma, il y a beaucoup de documentaires, mais le rapport ces trucs un peu noirs du fait de la désocialisation ou des difficultés de vivre après ce genre d'expériences qui sont magnifiques, je trouve que ça mérite un traitement littéraire, enfin rentrer après dans la psychologie des personnages. Ça a été fait pour d'autres scènes, j'imagine pour le rock ou pour des gens qui sont dans des contextes de vie un peu à part ou très protégés et qui ensuite sont confrontés à la réalité. C'est un peu ça en fait.
Donc c'est-à-dire que la désocialisation, elle provient en partie des expériences vécues dans les rêves.
Bah oui, parce que il y a le retour de flamme, forcément. Ouais. Je trouve que il faut faire attention à ce qu'on se met à croire là-dedans, et on peut avoir tendance à à enjoliver les traits, à se mettre à croire, ou être fasciné par une musique, des gens qui n'ont pas de problème de travail ou d'argent, qui sont dans une temporalité très éclatée. Donc tout le monde, on a l'impression que parfois que tout le monde n'a juste besoin que de faire la fête. Je pense que Bret Easton Ellis, par exemple, que je cite brièvement, c'est un clin d'œil, mais il a déjà traité de ça, c'est-à-dire cette espèce de jeunesse dorée californienne, les Yuppies, etc., qui sont des grandes écoles américaines qui ne font que faire la fête, prendre de la coke et conduire des bagnoles et se retrouver dans des restaurants privés. Ils ont tous des moments de hyper dépressifs et ils ont des difficultés de vivre et de se projeter dans l'avenir. Là, les gens, ils sont pauvres, mais c'est un peu la même chose, en fait.
Les gens, ils sont pauvres tous ?
Ils sont pas riches, en tout cas, il n'y a pas d'histoire d'argent là-dedans.
D'accord.
C'est juste que c'est des gens normaux qui ont juste envie de s'arracher la tête et de vivre de manière plus intense. Et on a vraiment l'impression de vivre plus intense, et c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas des choses virtuelles qu'on vit, mais par contre... Après, faut revenir un peu au réel. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire vivre des choses plus intenses?
On a un rapport déformé de la, une vue déformée de la réalité. On est drogué, donc on a des sensations plus intenses. On a une temporalité et un rapport à la musique plus intense. Donc on a un rapport au corps aussi qui est plus intense. Mmh. Et on a des rapports avec les gens qui sont très codés. En tout cas, qui sont très différents.
Mais ça, du coup, c'est pas très intense, non ? Enfin, je veux dire, les rapports avec les gens, ils sont pas intensifiés, non ? Ils sont au contraire,
enfin,
je sais pas.
Au contraire, ils sont éclatés, mais ils sont intenses. C'est difficile à expliquer. C'est pour ça que je me suis attaqué à ce roman. C'est que je me suis dit, comment je vais rendre cette intensité ? Est-ce que je vais pouvoir la transmettre ? Est-ce que je vais pouvoir la partager ? Et tant qu'on n'a pas essayé de jouer le jeu et de vivre ces soirées, c'est un peu difficile de se rendre compte du truc. Mais on dit toujours ça, on dit, tant que t'as pas essayé, tu peux pas, comprendre. Mais je trouve ça idiot, donc je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à aller au bout de ma pensée, voir si c'est réel, s'il y a une vraie accroche esthétique, ou si, au contraire, les gens sont dans l'illusion. Et donc, j'ai pas trouvé la solution. Moi, je pense que c'est un peu des deux, en fait.
C'est-à-dire que vous êtes pas encore convaincu que vous puissiez transmettre cette sensation par l'écriture, et que finalement, vous dites peut-être qu'il y a que les rêves et la drogue qui peuvent se faire sentir ce genre de choses que l'écriture pourra pas transmettre. En fait.
Je suis pas à moi de le dire. Je dirais, c'est pas à moi de le dire.
Vous posez la question, quoi.
Je pense qu'il y a des solutions plus radicales encore pour au niveau du mode d'écriture, c'est-à-dire être dans un spoken word un peu plus éclaté et plus psychédélique. Moi, j'ai écrit des passages où la langue est vraiment elle est plus construite de façon classique, donc ça donne ces effets d'accumulation de temps et de bouffée.
C'est-à-dire
de chaleur.
Une syntaxe complètement bousculée.
Ouais, voilà.
D'accord. C'est-à-dire finalement on comprend pas trop ce qui est écrit.
Si, mais on est au bord du no sense, ouais, effectivement, et c'est un style poétique qui se rapproche assez, enfin qui est en parallèle de l'essor de ces musiques, et ça a une raison en fait. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté de techno qui écrivent comme ça, ça a aussi une raison, c'est-à-dire que c'est l'époque qui influe ce genre de procédés d'écriture. Dans le rock aussi, il y a des gens qui, dans le no wave, etc., ou le noise, ce qui vient après Sonic Youth, les gens n'utilisent plus de paroles, ils crient, c'est des Larsen et des cris. Donc ça leur viendrait pas l'idée d'écrire des paroles sensées. Dans la poésie contemporaine, c'est la même chose. Il y a eu toute une phase, que j'aime pas d'ailleurs, qui était très performative et complètement théâtrale et exagérée, en fait. Là, pour ce dont on parle, moi j'avais écrit des pages entières un peu expérimentales, comme ça, que je trouvais qui collaient vraiment bien à l'ambiance, mais je pouvais pas les partager de façon classique. Donc probablement que je les partagerai d'une autre façon, peut-être sur des recueils plus petits. Je reviendrai sur ces travaux, mais moi je voulais écrire de la littérature classique. Donc il y a un découpage de chapitres qui est assez particulier, ce sont des chapitres courts et qui ont fini par les relier tous, en fait, enfin j'espère. Mais je voulais pouvoir partager tout ça de façon classique, ouais.
Oui, classique, vous dites, c'est-à-dire plus traditionnel, enfin, dans la forme du roman. D'ailleurs, voilà, c'est, voilà. D'ailleurs, c'est là, je trouve, hein, c'est bizarre parce que pourquoi finalement faire une intrigue, pourquoi faire tout ce mystère sur le Berghain, pourquoi raconter une histoire en fait si ce que vous voulez transmettre c'est une sensation. Ben, c'est aussi le, enfin, c'est le problème du roman, enfin le problème. Enfin, le roman en général, on s'attend à ce qu'il y ait une histoire. Bon, pourquoi en fait vous n'avez pas fait des poèmes?
Ben, je travaille beaucoup la poésie, mais c'est sur internet. Il y a une plateforme d'écriture qui s'appelle, donc c'est sur le site.
On peut en parler, ça y est dans le,
voilà,
ça y est dans
la partie. Donc, dans je trouve que la poésie, elle doit être accessible à tous. Il n'y a pas d'histoire de distribution d'argent, puisque c'est très difficile de vendre de la poésie aujourd'hui. Donc elle est disponible sur le net, et ces passages-là dont je parle sont en accès libre. Donc si ça intéresse les gens, c'est sur le site internet de la maison, editionf4@plateforme. En anglais. Et là-dessus, il y a 3000 textes d'auteurs variés avec qui je travaille depuis 3 ans. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de poésie. Et notamment des poèmes qu'on pourrait qualifier de poèmes techno, en fait.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire qui parlent de musique et des sensations, enfin, qui sont inspirés de ces moments. Avant, pendant ou après les concerts techno, quoi.
Ok, et donc dans le roman justement, le personnage principal essaie de, enfin, travaille sur ce genre de plateforme, si j'ai bien compris, c'est ça en fait.
Il en découvre une. Alors ça c'est un clin d'œil que je fais. Ouais. C'est là du coup on est vraiment dans l'autobiographie. Il en découvre une et c'est paradoxal parce qu'il a du mal à communiquer, comme vous dites, avec ses collègues ou ses les gens de la nuit ou du jour. Par contre, il fusionne quasiment avec quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout.
Oui, mais d'ailleurs, cette fusion, c'est très intéressant parce qu'à un moment, j'ai le passage précis normalement. Donc c'est cette fameuse page 87. Je vais te lire un bout. Ah voilà, c'est le dialogue qu'il a avec donc une fille qu'il n'a jamais vue, avec qui il a travaillé sur des poèmes sur la plateforme. Donc il a ce dialogue avec elle. Et alors, bon, je vais le lire. Je raconte l'histoire du prophète à la fille du blog. Je trouve que c'est une histoire pour elle. Tu sais le type la semaine dernière qui parlait de sa grand-mère. Il a dit qu'on était à une frontière entre deux mondes. Il a parlé de lisière. Ça te dit quelque chose? Au début, elle ne réagit pas, puis elle me répond. Oui, j'ai senti des changements dans les combles et les séracs. Des changements, dis-tu? Dans la montagne, ça bouge en ce moment. Je le sens. Que sens-tu? Le basculement. Comment tu le sens? Je regarde mes chiens. Ah ouais, tu regardes tes chiens. Ouais. Et ils te disent quoi d'autre, tes chiens? Le jour de la sismographie, la pointe d'or, nuage la quête. Le faiseur de vite. Quoi? Tu dois écouter les tréfonds des âmes humaines. Mais comment? Je sais pas. Moi, ma vie est beaucoup plus simple. Alors, ce passage, moi, j'ai pas compris. Donc, bon, évidemment, c'est fait sans doute pour qu'on comprenne pas ce dont ils sont en train de parler. Et j'ai pas compris si le personnage principal lui-même, finalement se foutait un peu de la gueule de son interlocutrice ou disait là vraiment elle parle trop loin quand elle lui dit ah ouais tu regardes tes chiens genre dans quel monde tu es, ou est-ce qu'il prend ça au sérieux?
Les deux il se fout un peu d'elle, ouais, il trouve qu'elle est trop perchée et qu'elle a un langage trop codé, mais c'est comme ça qu'il communique. Alors c'est comme ça aussi qu'on a communiqué avec certains auteurs sur la plateforme, c'est-à-dire c'est des dialogues poétiques, donc on se fichait un peu de la direction et de la thématique. On répondait plus ou moins, parfois pas du tout, on sautait du coq à l'âne. En tout cas, il y avait une liberté de ton et de parole et de forme. Je trouve intéressant que des gens puissent communiquer autrement que par une communication normale, classique, avec un échange d'idées précis, mais plutôt dans un rendu instinctif.
Ouais, c'est l'idée de la poésie même, c'est ça la poésie.
Voilà, mais dans le dialogue même, ça permet par exemple, si une personne écrit un poème une journée, et puis le soir l'autre lui répond, puis encore lui répond, ils se sont parlé par poème, ils ont donné des indications très vagues et imagées de leur expérience, de leur journée en fait, et ça donne un compte-rendu qui est pas extrêmement clair, qu'on peut pas résumer. Par contre, c'est comme c'est des impressions sensorielles, peut-être que ça donne un compte-rendu plus précis, tout en étant dans l'imprécision. C'est ça le truc. Donc elle fonctionne comme ça, et elle s'en fout d'être dans le monde des humains ou dans le monde extrêmement normé, donc elle se permet de lui sortir des trucs un peu foufou, un peu schizo. Et lui, il aime bien, mais il la cherche un peu.
Ouais, d'accord. Et, mais finalement, cette communication, c'est une communication entre moi et moi-même. Le mec est tout seul, finalement. Est-ce que ça lui permet pas de se comprendre mieux à lui que de comprendre les autres?
Peut-être.
De parler comme ça. Parce que ça, je trouve que ça se relie vachement avec tout ce que vous avez dit sur l'impression d'être au centre du monde. Ça revient pas mal de fois dans le bouquin. Vous l'avez parlé en milieu. Moi, le personnage, j'ai l'impression qu'il est tout seul dans ce livre. Que les autres, finalement, c'est des fantômes de personnages. Donc, on a lui, il est le narrateur à la première personne. Des fois, il a un recul sur lui-même qui fait qu'il a un regard donc sur son propre personnage, souvent même. Et donc, il est tout le temps en train de se juger ou de dire qu'il ne comprend pas, voilà, de s'explorer. Donc, il est seul. Et au milieu de tout ça, on a donc cette femme qu'il aime, enfin avec qui il entretient une relation type normale et qui sont des personnages fantômes. Ça, c'est pour rendre cet effet d'égocentrisme, en fait.
Peut-être. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est intéressant.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu ça. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, je trouve, aujourd'hui. Donc c'est pareil. C'est quelque chose que je me permets d'aborder. C'est-à-dire que même dans un contexte hyper connecté ou de ville de densité de population important, les gens arrivent quand même à se retrouver très seuls, enfin ou se sentent très seuls. Là, c'est aussi un Français qui est en exil, donc ça rajoute à la solitude. Et puis c'est quelqu'un qui vit des expériences un peu extrêmes ou frustrantes, enfin extrêmes la nuit, belle peut-être, et frustrante le jour parce qu'il aime pas son taf, et c'est encore un truc qui rajoute à la solitude, mais je trouve que c'est un peu la vie de tout le monde. Il y a des gens qui se débrouillent mieux, hein, mais...
Et cette solitude, vous avez dit au début que c'était pas finalement pas triste ou pas déplorable, enfin je sais pas, ce que vous avez dit, le sentiment d'être seul, d'être le centre du monde, quand on est en rave ou des choses comme ça, c'est pas mauvais finalement, enfin c'est pas mauvais, c'est pas forcément blâmable ou c'est pas...
Oui, voilà, c'est pas... Non, mais il y a des gens qui aiment bien être seuls, hein, aussi, c'est pas une... Je sais pas comment traiter.
Comment ça, il le sent, en fait, ce personnage? Est-ce qu'il en souffre de sa solitude ou est-ce qu'il la kiffe?
Non, je pense que il s'y met sciemment, soit par maladresse, soit par défaut. C'est-à-dire que il a pas spécial. C'est plutôt quelqu'un de très entouré, mais qui a besoin de travailler sur lui, donc de se retirer un peu du monde.
Et donc, du coup, là, je vais en venir peut-être. J'ai envie d'aborder un peu l'aspect politique de ce bouquin parce qu'on est quand même la plus rebelle des radios. Donc voilà, on se doit un peu de parler de politique. Et ce bouquin, je trouve qu'il parle de politique justement dans la fuite. Donc on en parle depuis tout à l'heure, la fuite du monde un peu de ce héros. Est-ce que c'est un refus finalement? Voilà. Et puis ça rejoint aussi une question que je voulais poser sur la techno. Alors par où on commence? Bon, on va commencer par le personnage. Il essaye de donc, disons, un peu de fuir quelque part le monde en trouvant un autre dans ses rêves, dans ses événements techno. Est-ce que c'est un refus politique ou apolitique? C'est-à-dire, est-ce que c'est le refus de toute vie, c'est-à-dire un refus apolitique, ou est-ce que c'est le refus d'une vie en spécificité, une vie en particulier, qui serait la vie à Berlin, et le monde tel qu'il est actuellement? Il y a pas mal de critiques du consumérisme et tout dans le livre.
Oui. Comment
ça marche, ça?
Alors, l'aspect politique, il est lié, il est lié d'abord à l'histoire de la ville. L'aspect politique de... Faut peut-être commencer par l'aspect politique de la techno.
Oui, ben voilà. Je voulais...
C'est d'abord, c'est une liberté qu'on prend, qu'on ne nous donne pas, donc qu'on prend. Enfin, historiquement, le mouvement...
Les rêves, vous parlez donc des rêves.
Voilà. Historiquement, le mouvement a pris son essor, a pris son envol d'abord parce que les instruments avaient un autre son. Ça permet d'avoir des sons comme ça, mais aussi parce qu'ils avaient plus accès aux clubs et aux salles de concert. C'est-à-dire qu'ils ils étaient foutus dehors. Ils disaient, ah bon? Enfin, en Angleterre, c'était comme ça. Et puis, à Chicago aussi. Ah bon, vous ne voulez pas qu'on loue votre salle pour faire nos concerts? Donc, on va trouver des lieux. Donc le concept de rêve et de prise de position, enfin, de prise de lieu dans des friches industrielles a démarré comme ça. Donc c'était déjà politique, mais c'est politique contre une manière de faire de la sphère privée, de la sphère du business privé qui dit ah, vous ne voulez pas nous, donc on va se débrouiller tout seul. Après, l'institution elle a toujours condamné ces trucs-là, donc mais c'est au-delà de ça.
Mais c'est politique, mais finalement c'est un peu auto-centré, je veux dire, et ça manifeste, mais pour soi-même, c'est ça que... Et d'ailleurs, il y a le passage qui m'a fait un peu rigoler, parce que bon, là d'habitude souvent je parle de rap ici, et vous parlez un peu de rap dans le bouquin. vite fait. C'est à la page 167, donc du coup, je suis obligé de lire. Et vous dites, je me demande pourquoi les titres d'aujourd'hui, et là, vous parlez
des titres de rap,
des titres de rap, ne parlent plus de ce genre de choses, de nous. C'est-à-dire le mec est ouvrier, donc de nous, quand il parle, dit de nous, c'est enfin, des ouvriers. Ni pourquoi les rappeurs ont oublié de chanter l'histoire du plombier du quartier, avec des rimes en soudure, en cerclage, en joint de 12, et les filles des soirées de danser à la gloire des tuyaux en se frottant contre les salopettes bleues. Et donc là, c'est important, parce que moi je me suis dit, oui, ça c'est vrai, sur le rap, je pense que là je vais pas forcément vous contredire, il y a peut-être un rap, il y aura une évolution du rap qui oublie de parler du prolétariat. Est-ce que le rap a déjà parlé du prolétariat aussi? Ça c'est une autre question, c'est pas obligé non plus. Et mais là je me suis dit, et ça a fait écho à ce qu'il y a marqué au début de la phrase, de la page, je veux suivre l'avancée des révolutions arabes, l'Europe n'en a cure et la techno non plus. C'est-à-dire que quand je réfléchis au rap, je me dis le rap finalement parle d'autre chose que de lui-même. La techno, même les raves, les mouvements pour les raves et tout, ce sont des mouvements autocentrés qui manifestent pour leur propre liberté. Donc je me dis, est-ce que ça c'est finalement une posture politique? Et est-ce que c'est une différence de la techno? Est-ce que la techno a revendiqué d'autres choses en fait que des choses pour elle-même?
Rarement, et j'ai toujours critiqué la techno pour ça. Moi j'ai toujours pensé que la techno était un mouvement politique, enfin qui devait être politisé, et j'ai eu peu d'écho à ça. Donc il y a des gens qui trouvent que c'est politique, d'autres, la grande majorité non. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que si c'est autocentré et hédoniste, c'est un passage que j'ai enlevé, mais j'avais un passage où le héros, dans une sorte de, à un moment donné, le son s'arrête, puis il y a quelqu'un qui parle, qui m'a parlé d'une soirée, ou qui invite les autres, où il y a un problème, un peu. Le militantisme techno, il est effectivement toujours centré sur comment continuer à faire des soirées, ça va pas au-delà. Mais il prenait la parole, il disait, mais vous vous trompez, parce qu'on peut, peut-être que ce qu'on fait c'est obscène, peut-être que ce qu'on fait c'est ridicule, mais on est un exemple. On est un exemple pour les sociétés qui ne vont pas bien. C'est-à-dire que si une société permet aux gens d'aller danser du vendredi soir au lundi matin, ça veut dire que il y a pas de problème majeur. Si ça c'est autorisé, la société va bien. Donc, c'est peut-être je pense que le fantasme d'une personne en Syrie ou en Palestine aujourd'hui, c'est de pouvoir danser du vendredi au lundi. C'est ça qu'ils veulent faire. Et quand ils pourront le faire, c'est-à-dire que leur société ira bien. Donc on peut se demander ce qu'est cet hédonisme. Peut-être il est un peu couillon, mais c'est aussi il faut pas oublier de le relier au reste, quoi. Et ça, on a trop tendance à le faire. Et moi je voulais écrire un roman sur, pas que sur la techno, mais en tout cas sur un monde à part qui quand même est extrêmement relié au reste.
Mais ouais. ouais. Donc, ok. Et c'est pour ça aussi que vous avez fait du personnage un ouvrier. Ça veut dire n'importe quoi.
C'est autobiographique. Moi, j'ai vécu comme ça. Donc, j'ai exagéré à mort les situations dans le. Ça m'amusait de le faire comme ça. Après, historiquement, le mouvement techno, il est lié au mouvement ouvrier. C'est-à-dire que c'est des fils d'ouvriers qui, leurs parents étaient au chômage, eux, ils avaient pas
Est-ce que c'est pas la dépolitisation des fils d'ouvriers?
Si, mais c'est aussi le déclin de la politique qui fait que aujourd'hui les gens ils préfèrent s'intéresser à d'autres choses et ils sont aujourd'hui dans les années 2000 là dans des contextes où finalement on n'a plus besoin d'être dans le militantisme dans un militantisme actif parce que tout va bien, enfin tout ne va pas bien mais ça va quoi. On habite en France ou en Allemagne, je veux dire.
C'est pas ce que j'ai ressenti trop dans votre livre, j'ai l'impression que je sais pas si tout, enfin ouais. Vous trouvez que tout va bien et dans votre livre ça va pas si bien, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'un monde qui se détruit, qui part en couille.
Non mais les gens qui vont le moins bien, c'est des petites filles de bourgeois qui sont névrosées. Enfin bon, c'est ça les gens qui vont vraiment pas bien. Donc tu te demandes ce que c'est de ne pas aller bien dans nos sociétés. Il y a des paradoxes énormes. Après
C'est-à-dire dans la posture, c'est-à-dire ceux qui expriment le plus leur mal-être finalement, ce que vous dites, ce sont les filles de bourgeoises.
Non, mais c'est une formule, mais ne pas aller bien dans nos sociétés et râler tout le temps, c'est là du coup on est dans l'obscénité, je trouve.
Peut-être.
Bah oui, parce que la vraie pauvreté, suffit d'aller voir dans les favelas ou dans des pays vraiment pauvres, et les gens ils nous regardent, ils disent ah tu vas pas bien, t'es névrosé, mais tu te fous de ma gueule. Je veux dire, moi j'aimerais bien être ils aimeraient bien échanger notre névrose contre leurs 20 km pour aller chercher de l'eau. Donc c'est ça que je dis. Et après au-delà de ça. La politisation, elle est pas aussi directe. C'est-à-dire que c'est plutôt, moi, j'aime bien parler d'une sorte de géopolitique et d'une philosophie de la vie aujourd'hui qui serait chancelante et au départ d'un changement important qu'on ne visualise pas forcément aujourd'hui. Et je trouve ça, je suis plutôt dans une sorte d'anticipation ou de vision de la société qui est en mutation intense, mais sans qu'on s'en rende compte. Et ça m'intéresse. Ça peut être une mutation technologique, bon ça c'est le truc le plus évident, mais moi j'aime bien parler de mutation de l'ADN, et j'aime bien penser que les gens en dansant se reprogramment, et c'est quelque chose qui est trait à des nouvelles recherches neurobiologiques aujourd'hui, que ça s'appelle c'est les gens qui étudient les espèces et le changement rapide des espèces. C'est-à-dire qu'en une ou deux générations, on s'aperçoit qu'il y a des changements de biologiques et ADN sur un oiseau ou une salamandre, je sais pas, parce que son environnement évolue. En une ou deux générations, l'animal s'est réadapté.
Donc, vous pensez que ça va se passer pareil pour les hommes?
Je pense que c'est pareil pour les hommes, et je pense que même chaque moment compte. C'est-à-dire que chaque geste dans la vie, ou pensée, ou discussion, ou rapport avec les autres, ça vient se nicher dans l'ADN. Et que le métier qu'on a fait qu'a fait nos parents ou nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents nous transmet quelque chose, et on a quelque chose, on a leur geste en nous en fait. Mais c'est une théorie qui est en train d'être validée en ce moment par plein de corps de métier en fait. Donc moi je me demande ce que c'est pour une génération entière européenne, parce que tout le monde va danser en rêve aujourd'hui en club.
Non.
Ouais, non, mais d'accord.
Ah, monsieur Tug.
Sauf monsieur Tug. Oui. Mais en tout cas, beaucoup de gens. Et donc, je me demande ce que ça m'intéresse de penser que ces gens se reprogramment, et donc, dans un beat très mathématique, remettent leur pensée et leur ADN en forme. Alors, est-ce que ça va être dans une direction positive ou négative? Je ne sais pas. Mais, les systèmes de communication, dans les 50 prochaines années vont changer radicalement, donc je pense que là les rapports humains aussi vont changer radicalement, c'est-à-dire qu'on aura probablement que les pensées ou les mots vont disparaître peut-être, et la pensée va, ou l'image de la pensée va prendre une place très importante, et on n'imagine pas ce que ça va changer dans nos rapports humains. Déjà que Facebook change l'humanité et les smartphones, parce que le temps qu'on y passe et la manière de consommer l'info a changé. Donc les prochains outils vont changer des choses ça va vraiment être on a du mal que le mec ait cette sensation, et quand il danse et qu'il regarde les gens autour de lui, il dit mais là il est en train de se passer quelque chose, et l'humanité est en train de jouer une partie de son histoire dans des moments qui ont l'air insignifiants, mais lui il sait que c'est important. Voilà.
La techno va reprogrammer le monde. Là, à la fin, c'était complètement prophétique.
Ouais, la science-fiction,
j'aime bien ces paroles-là, parce que, ouais, là, on est un peu dans l'SF, dans le heroic fantasy, un petit peu, des choses comme ça. Ça m'intéresse de déraper un peu dans ces
Du coup, quelle est la part autobiographique de votre roman?
Une bonne moitié
d'accord.
Mais par contre les situations, les gens, j'ai changé énormément de choses, mais les lieux déjà sont véritables, et puis moi je suis vraiment producteur de musique, le personnage l'est, voilà. Et puis là, en fait c'est une trilogie, pareil, moi j'ai vécu à Tokyo, donc j'ai écrit quelque chose à Tokyo qui est assez mystique, et une enquête aussi qui se barre bien dans le fantastique, et la société nippone, qui est très différent, et le début des années 80.
C'est pour ça que vous dites pas trilogie, vous dites triptyque. C'est pas la suite en fait que vous allez faire.
Alors, en fait, ça remonte dans le temps, c'est inversé, c'est-à-dire que...
Ouais, mais c'est une suite d'un, en remontant dans le temps. C'est un rapport avec l'histoire.
Oui, bah c'est une continuité de ma vie à moi, dans les villes où j'ai habité, ce que j'ai vécu, je m'en inspire. Donc il y a cette partie d'autobiographie. L'inspiration est partie du début des années 90 et puis continue aujourd'hui. Mais c'est un fil, il y a un fil directeur qui est dont je suis l'instigateur, oui.
Ok.
Donc votre but en fait c'est de partir de votre expérience personnelle et la dévoiler un peu au monde en montrant voilà ce que vous avez dit, les changements, enfin avant tout montrer ce qu'on ressent dans ces situations-là et c'est un peu le roman est fait pour ça je pense, oui.
Ouais, c'est un témoignage, je donne à penser des choses que les gens n'auraient peut-être pas pensé parce qu'ils sont, oui. Ils se sentent pas à l'aise avec cette musique ou avec ces gens-là et pourtant et ça, certaines choses s'y jouent, je pense. C'est-à-dire que ça a l'air peut-être complètement couillon et insignifiant ou juste un loisir auto-centré, idiot. Et en fait, moi, je pense que ça ne l'est pas. C'est-à-dire que les gens qui travaillent vraiment, il y a vraiment des gens très 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 intelligents dans là-dedans, des musiciens, des gens qui ont des sensations comme ça philosophiques fortes. Savent bien que c'est une expression de la modernité et que c'est peut-être le seul art contemporain aujourd'hui, par exemple. Enfin, quand on dit art et contemporain, qu'est-ce qui soulève les foules? Bah, c'est ça. C'est pas le théâtre subventionné, c'est pas l'art contemporain, les installations de plastique que 12 personnes vont voir. ce qui se passe, c'est ces trucs un peu bling-bling. La techno, c'est vraiment un système et une scène très underground, assez avant-gardiste, avec une esthétique forte. Mais il y a tout le côté EDM, dance music, David Guetta, et c'est une partie de la techno. Et là, on est dans des proportions phénoménales de succès et de consommation et peut-être de reprogrammation. C'est-à-dire que les festivals comme en Hollande ou aux États-Unis, là, c'est 500 000 personnes. C'est juste gigantesque. Tout le monde est là horrifié et se détourne le regard et n'en parle pas. Mais les gens, ils sont là. L'humanité est là. Donc, elle n'est pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut trouver plus intéressant un concert avec 60 personnes parce que les mecs, ils ont bien travaillé, ils sont dans l'avant-garde. Mais, ou dans le vrai son, etc. Mais finalement, quelle est la part de vérité et de quelle est la chose réelle à observer quand on se dit, tiens, j'aime mes contemporains, je suis humain et je veux parler de mon monde à moi. Bah, ce monde à soi, c'est ces 500 000 personnes en train de danser sur une musique horrible, hyper kitsch, mais il y a une raison à tout. Si ce succès existe, c'est que nous, peut-être, des gens plus cultivés ou underground, n'ont pas réussi à fédérer ou à générer des formes qui puissent rassembler sans se fourvoyer. Donc voilà, moi je me pose des questions.
Vous dites que enfin, finalement, ce qui est le plus représentatif de la techno, finalement, c'est ça que vous dites, c'est David Guetta, donc en fait, puisque c'est celui qui est le plus écouté.
Ah bah, il y a plusieurs discours. Si on se base sur les chiffres et l'engouement du public, toutes tendances confondues, oui. Après,
voilà, mais est-ce qu'on peut se baser que sur ça?
Bah non, bien sûr que non, évidemment.
Heureusement.
Mais comme on est habitué à ce discours venant de nous, où justement on fait bien attention à tout ça et on fait bien la distinction et on défend nos arts et notre courage, notre esthétique. On le fait non-stop 100% 7 jours sur 7, mais on oublie aussi de se dire mais qu'est-ce qui marche et pourquoi pourquoi nous ils viennent pas s'intéresser à nos formes à nous, et parfois la remise en question est productrice de belles idées, hein.
Vous avez pas de réponse à cette question, vous savez pas pourquoi
En fait, les gens, ils aiment bien être en accord avec leur vie de tous les jours. Et là, quand leur vie de tous les jours, c'est une industrie, c'est lié à l'industrie de la publicité, l'industrie alimentaire, la télévision, les programmes, une façon de se montrer, d'être dans une expression naïve et généreuse de soi, du corps. Ils veulent des choses simples et qui leur ressemblent, en fait. Donc, forcément les loisirs musicaux, artistiques, ils doivent rester dans ces cases-là.
C'est rester dans son confort, en fait, c'est ça que vous voulez dire?
Non, mais je pense que des certaines formes artistiques d'avant-garde pourraient très bien utiliser ces codes pour raconter autre chose, mais c'est juste une question de code, en fait. Et comme on les rejette, on est là, c'est affreux, c'est rose, c'est vulgaire, c'est popu, horrible. On est là, on ne veut pas toucher à ça, mais on a tort, je trouve.
Donc vous êtes le prochain David Guetta, c'est ça?
Non,
là.
Non,
c'est
non,
ça
non,
la conclusion du...
Non, moi j'ai pas la solution. Moi je continue à faire des trucs en underground où j'écris des romans. C'est hyper dur. Le choix il est vite vu. Hein.
Ouais, on a bien compris.
On va peut-être écouter à notre sens.
Ouais, mais on va surtout mettre fin à l'émission. Je vous remercie, monsieur Brieux Lemeur. Vous avez
merci beaucoup de m'avoir invité.
Quelques dernières paroles à dire à nos auditeurs, des annonces à faire?
Non, bah, je suis en tournée. Si, j'ai une annonce importante à faire. C'est que si, on est en direct, en fait, là?
Oui.
D'accord. moi, je serai demain, à la librairie Le Bal des Ardents. Je sais pas si vous avez l'adresse, je ne l'ai pas sur moi.
Je connais pas.
À Lyon. Pour une présentation du roman et des dédicaces, si les gens veulent se le procurer, les livres, parce qu'il y a un autre livre dont on n'a pas parlé. C'est à 19h, donc dans cette librairie, et je serais enchanté de rencontrer les gens en vrai. Voilà,
donc Bal des Ardents, demain, pour Deux Mondes de Brieux Lemeur. Donc on va se mettre le dernier son que M. Brieux Lemeur a proposé.
Ah, c'est un instrumental, c'est pas de la techno justement. J'ai pensé à vous. Et, je savais pas, mais j'ai pensé à vous quand même. Et donc, ça s'appelle Calculator, et là c'est plutôt une sorte de forme un peu rock, c'est la musique électronique. Les gens qui connaissent bien le rock des années 70 vont peut-être reconnaître un sample, c'est le test.
Ok, bon bah alors on va se quitter sur ça. La semaine prochaine pour Montaigne Was The Thug, rap, littérature et révolution avec de la techno aujourd'hui, mais pas que, bien sûr. Et à plus, ciao.